Lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
Oui. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur.
Le big bang politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage. Pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Jeanne, au secours!
Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.
RLP.
Bonjour au Périgord, salut à toi citoyen, citoyenne, administré, habitant, habitante, quel que soit ton nom, ton rôle, ou pas d'ailleurs, bienvenue à toi sur les ondes de RLP, la bonne question. Aujourd'hui, la démocratie locale est le sujet de notre après-midi. Pas celle imposée par les TPMP et autres tribunaux populaires qui s'incrustent dans la localité des neurones shootés au petit écran. Non point, nous allons aujourd'hui nous éduquer sur la démocratie locale administrée et la démocratie locale populaire, qui, je crois, nous aurions tous et toutes aimé que ça soit la même, en fait. Mais, car il y a un mais, quelle souffrance de voir les deux illustres Demos et Kratos avoir du mal à se réunir, car il faut le dire, entre le peuple et le pouvoir, un jeu de « je t'aime moi non plus », un tango à deux partitions est en place, et ce, depuis que la force est l'empreinte de nos relations sociales, c'est-à-dire depuis la nuit des temps. Bon, aujourd'hui sont présents Stéphane.
Bonjour à tous.
Kevin.
Bonjour à tous.
Et moi-même, Luc, de l'association AFAC. Donc bonjour à vous. Et Madame Nathalie Ballerand, du groupe Reconquête.
Bonjour.
Ainsi que Vincent Bellotto, du groupe LFI.
Bonjour à toutes et à tous.
Tous deux invités sur le thème de la démocratie locale. Donc, bonjour à vous. Pour le thème, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos présentations respectives ?
Alors, effectivement. Donc, moi, je me suis intéressée à la démocratie locale via un engagement dans une municipalité en tant qu'adjointe, donc élue depuis 2020, et puis plus aussi à peu près en parallèle, en m'engageant dans le mouvement d'Éric Zemmour Reconquête, dont je suis la représentante au niveau départemental.
D'accord. Vincent ?
Moi, je tiens simplement à saluer l'initiative qui est prise et le partenariat entre l'AFAC 24 et Radio Libre en Périgord, et saluer le travail que vous menez en termes d'éducation à la citoyenneté. Donc, vous concourez également à faire vivre, vous, localement, la démocratie locale. Merci pour votre travail.
Eh bien, on les prend. On va commencer par une petite Steph Story, si ça te va, Steph.
Volontiers.
À toi.
Je suis un citoyen de l'univers, je suis un citoyen de la Voie lactée, je suis un citoyen du système solaire, je suis un citoyen de la Terre, je suis un citoyen de l'Union européenne, je suis un citoyen de la France, je suis un citoyen de la Dordogne, je suis un citoyen du Grand Périgueux, je suis un citoyen de Cluny et Chamier. En tout état de cause, on constate un lien ténu entre la notion de citoyenneté et le positionnement géographique. Ce matin, j'arrive chez Marcel, le café d'à côté. Je prends mon petit noir. Ah merde! C'est pas la version politiquement correcte. Mon petit blanc sur le zinc, quand Marcel me dit en braillant « T'as vu ce que la préfecture veut installer dans l'ancienne école ? Ils veulent nous mettre des sans-papiers, un centre d'accueil pour réfugiés qu'ils appellent ça. » Et notre maire, il en dit quoi ? Ben, elle a pas son mot à dire, il paraît. Bon, on verra bien. J'espère que ce seront des familles qui seront logées là et pas des MNA de 25 ans. Je sors dépité de chez Marcel et vois une bande d'énergumènes avec des tronçonneuses qui s'attaquent telle une bande de peaux rouges surexcitées aux arbres plus que centenaires de la place du village. Mais qu'est-ce que vous faites, bande de sauvages ? On travaille, nous, monsieur. On nous a dit de couper, nous, on coupe. Mais le maire, il est au courant ? C'est l'intercommunalité qui décide. Alors le maire ? À bout de nerfs, je me rends à la gare pour prendre mon train. 30 minutes plus tard, toujours pas de train. Je croise une petite dame qui m'explique que les horaires ont changé depuis que le conseil régional l'a décidé et que l'année prochaine, il n'y aurait plus d'arrêt chez nous. Et le maire, qu'est-ce qu'il en pense ? Oh. Vous savez, notre brave maire, contre les décisions d'un président de région, député, sénateur, maire, ancien secrétaire d'État et ministre en devenir, que peut-il dire, le pauvre homme ? Je repars, triste, abattu, vers mon domicile et longe l'ancienne caserne des pompiers que le département a fermée il y a 2 ans. Maintenant, il faut 30 minutes aux pompiers, les plus proches, pour intervenir. C'est comme cela que la brave Madame Brocard est morte brûlée vive il y a 3 mois. Alors, remplie d'une rage animale, Je vois mettre le feu à la préfecture, ce symbole de la tyrannie d'un État soumis au diktat. Tiens, un mot allemand, comme par hasard. Diktat de l'ogre européen. Mais avant, je retourne me coucher. Tout cela n'est-il pas qu'un affreux cauchemar? Quoique.
Merci Stéphane. On va continuer sur ce qu'on appelle le parti pris de Stéphane. En réalité, le parti pris, c'est que tu es parti sur des recherches administratives.
C'est assez neutre, hein. C'est du droit administratif.
Ouais. Ok. Donc on te laisse un peu nous mettre en lumière toute cette partie administrative de la démocratie locale.
Alors je vais vous faire une explication sur trois axes. Trois axes, trois titres. Le premier, c'est les différentes formes d'État et les conséquences sur la démocratie locale. Le deuxième axe sera historique de la décentralisation de la France. Et un troisième, un rapide tour des collectivités locales, organes de la décentralisation. Donc ma première partie, les différentes formes d'État et les conséquences sur la démocratie locale. Il existe deux grandes catégories d'États, les États unitaires et les États dits fédéraux. Les États unitaires se décomposent en États dits concentrés, exemple Monaco et Malte. En États déconcentrés, des représentants de l'État sont au niveau local, préfet, maire et recteur, par exemple. Il existe des États décentralisés. Il existe au niveau local des autorités administratives distinctes de l'État. Il existe aussi des États unitaires régionalisés, par exemple l'Italie et l'Espagne, où les autorités locales possèdent des compétences normatives. Elles peuvent établir des lois. Après, nous avons les États fédéraux, les plus connus, par exemple les États-Unis d'Amérique ou l'ex-URSS. Et il existe aussi des confédérations où le lien est plus souple. On peut considérer que l'Union européenne revêt une forme de confédération. Pour ce qui est de la France est un État unitaire, déconcentré et décentralisé. Et oui, on ne peut pas faire comme tout le monde, nous. Alors, histoire de la décentralisation en France. Elle commence vraiment lors de la Révolution française. La Constituante fixe des cadres territoriaux encore en place aujourd'hui. Les communes et les départements. L'administration gère les affaires de l'État. C'est ce qu'on appelle la déconcentration. Il ne faut pas confondre déconcentration et décentralisation. À partir de 1792, on observe une recentralisation de l'organisation administrative locale. Le centralisme jacobin s'opposant à la décentralisation. Sous Napoléon, toutes les autorités locales sont nommées par le pouvoir central et le préfet est l'axe majeur de l'action locale. Sous la Troisième République, en 1871, sont créés les conseils généraux chargés de gérer les affaires des départements. Mais le préfet reste l'axe majeur malgré une assemblée départementale élue. En 1884, l'organisation des communes est modifiée par la Grande Charte municipale. Le système mis en place est peu ou prou le même aujourd'hui. Après, on va venir à un gros paquet qui est l'acte 1 de la décentralisation, les lois de fer. 1982, les premières lois de fer, les présidents des conseils généraux et régionaux deviennent les piliers des collectivités. La région devient pleinement une collectivité locale. Acte 2, 2004, ça devait être une vaste redistribution des compétences de l'État vers les collectivités locales. Mais ça n'a pas vraiment abouti. La réforme de 2010 avait pour but de réduire les dépenses de gestion. Elle a en partie avorté, mais a redessiné les intercommunalités, ce que nous verrons dans l'interview de M. Ouzou. Alors maintenant, une sommaire présentation des collectivités locales, organes de la décentralisation. La commune, même organisation quelle que soit la commune, excepté Paris, Lyon, Marseille. Les compétences. Logement, aide sociale, école primaire et maternelle, patrimoine touristique et sportif. Le département, domaine de compétences, l'action sociale, par le biais du RSA, l'aide sociale à l'enfant, l'ASE, l'aide sociale aux personnes âgées, l'APA, l'aide sociale aux personnes handicapées, MDPH, toutes les questions de secours et d'incendie sont gérées aussi par le département, les gros équipements de voirie et les collèges. Il a perdu sa clause de compétence générale. La région, ses prérogatives, développement et aménagement du territoire, formation professionnelle et les lycées. Elle a aussi perdu sa clause de compétence générale. Contrôle sur les collectivités locales. Il est a posteriori, il est juridictionnel. Ce sont les tribunaux administratifs, cours administratifs d'appel qui gèrent ces affaires-là.
et seulement en légalité, pas en opportunité, ce qui est quand même assez important. Voilà pour une brève présentation du système administratif français vu par le droit administratif.
Alors, merci Stéphane. Bon, à t'écouter, on comprend pourquoi on comprend rien.
Voilà.
Hein du coup, c'est à se repasser hein, pour se faire un petit schéma, pour ceux qui veulent vraiment tout comprendre. Parce que dans ce que tu as mis, dans ce que tu as expliqué, il y a quasiment tout, même si tu n'es pas rentré dans le détail de tout. Voilà. Si on le met sur un papier, on va comprendre.
De toute façon, je donnerai des références dans les livres, avec un livre, une édition de la documentation française, où tout est très bien expliqué.
Ok. Voilà. Okay. Vous avez tout pigé, j'imagine ?
Suivi, oui. Pigé, pas forcément.
Bon, Vincent, t'as...
Non, ça démontre parfaitement ce que tu disais sur un ton humoristique, mais qui est réel. C'est le fameux millefeuille administratif à la française. Qui est une réalité, qui a une histoire, vous l'avez expliqué, qui a une genèse, qui a ses raisons, et qui peut-être, a vécu, en tout cas, selon moi et selon nous à la France Insoumise, peut-être un autre temps démocratique doit émerger absolument.
Ah oui, c'est vrai que vous demandez la 6e République régulièrement, mais bon, ça en est là aujourd'hui, en tout cas. Du coup, on va sortir un petit peu de la partie administrative, et puis on va aller un peu sur le terrain. Donc on a Kevin, notre reporter sans frontières, qui est parti sur le terrain. Et on a interrogé d'autres personnes que des politiques. Bon, ça peut... Kevin, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ?
Oui, bien sûr. Bonjour, donc moi c'est Kevin Certain. Donc nous avons fait l'interview de 4 personnes pour pouvoir leur demander leur point de vue sur la démocratie locale. Donc du coup, nous avons interrogé Stéphane Faudot de Intercite, Jacques et Cathy de Mouvement Libertaire, Marie-Jacques Monnier de Compagnie de Théâtre Périgueux et Arthur Hay. Donc du coup, ils ont tous les mêmes questions, donc les 4 questions concernant la démocratie locale. La première, quelle est la définition de la démocratie locale ? La deuxième question... décrire une action de démocratie locale. La troisième question, ce qui pourrait être mis en œuvre. Et la troisième question, meilleur moyen pour une bonne démocratie locale.
Dans les prises de décision.
Dans les prises de décision.
Ok, bon, on va écouter ça.
RLP, la bonne question.
Définissez la démocratie locale.
Alors le plus simple, la plus simple, c'est la démocratie locale. Pour moi, c'est le vivre ensemble.
Eh ben, c'est se mêler de ce qui nous regarde directement au quotidien, dans les actes de tous nos jours. À partir du moment où on sort de chez soi, eh ben, on fait de la politique. Chez soi, c'est de l'intime, mais à partir du moment où on est dans la cage d'escalier, on est sur l'espace public, on va être confronté aux autres et il va falloir apprendre à se gérer.
La démocratie locale, pour moi, elle repose sur l'analyse des besoins locaux et des possibilités également, c'est-à-dire des ressources locales.
Je pense que c'est un processus qui est assez varié, qui demande à ce qu'il y ait une organisation du dialogue, qu'il y ait un cheminement de l'information aussi sur ce qui se passe dans la localité. Mais la démocratie, ça devrait être le processus de la recherche du consensus et ensuite trouver des moyens pour délibérer s'il n'y a pas de consensus.
Une pratique ou action de démocratie locale.
Un formidable outil de démocratie locale, c'est le monde associatif et tout ce que ça peut représenter, que ce soit aussi bien les associations culturelles, sportives, intellectuelles, et j'en passe.
Moi, je pense qu'on a vraiment presque tout à réinventer, à inventer à ce niveau-là. Je ne suis absolument pas satisfait du système de représentation avec un chef.
Nous, dans le quartier de Vézone, on va décider... parce que nous y habitons, de faire un jardin partagé avec un four à pain, eh bien, on pourra toutes et tous réaliser pour le commun cet outil. Voilà. En auto-organisation, c'est-à-dire s'auto-organiser, comme le dit le préfixe auto, c'est quelque chose qui nous vient de notre propre savoir, le savoir étant pour tout le monde.
Vraiment, il y en a plein et je pense que tout simplement les magazines de ville s'en est un, même si le fait qu'ils soient aux mains des personnes élues, ça pose un problème, mais c'est un moyen, par exemple, de passer de l'information. Et comme j'ai dit, l'information, c'est la base de la démocratie. Si t'as pas l'échange d'informations, ta démocratie, elle est biaisée. Tu peux faire voter qui tu veux, tu leur feras voter n'importe quoi. C'est pour ça que ces chemins d'information, il faut qu'ils soient libres, il faut qu'ils soient pas aux mains de ceux qui ont déjà gagné l'élection. Il faut qu'ils soient aux mains des citoyens.
Un outil à inventer.
Je pense que déjà, s'il y a une égalité, que les gens soient pas dans la merde, ça peut aider beaucoup. Voilà, quand tu manges à ta faim et que tu as toi au-dessus de la tête, tu peux te poser ce genre de questions.
Il y a un système de pyramide et je crois pas, tous les jours on voit que ça ne fonctionne pas. Et on n'a plus l'habitude, les citoyens, d'être impliqués concrètement dans les décisions, dans les questionnements. Et du coup, il faut refabriquer ce lien entre ce qui fait société et l'individu, quoi.
Très localement ou très ponctuellement, on fait confiance à ce qu'on appelle l'Assemblée Générale et qu'il en ressorte des propositions, que ces propositions ensuite soient rapportées par une fameuse personne mandatée pour. Et à une échelle un peu plus large, on a le principe du fédéralisme. Alors, le fédéralisme libertaire, c'est des gens qui se réunissent sur des bases communes pour y vivre ensemble, etc. Et puis aussi, si on a envie de vivre seul, on peut aussi vivre seul, hors de ces collectivités. Voilà.
Un constat de comment fonctionne la localité. Il faut aussi que les gens puissent comprendre que s'ils se déplacent à un endroit, à une zone de prise de décision, de débat, etc. Faut que les gens ils se disent « Je vais me déplacer, mais c'est pas juste pour écouter, c'est peut-être je peux changer les choses. » Si on devait garder la notion d'élection, je pense qu'on devrait élire des administrateurs. Des gens qui t'aident à avoir ça, en fait. Des gens qui vont... tu vas élire des gens qui vont être payés, enfin indemnisés, pour mettre en place ce nouveau système de consultation permanente et, en fait, d'aller-retour entre les gens qui ont été élus, mais plus pour prendre des décisions, mais pour prendre les décisions qui viennent des gens qui les ont élus une fois. Et en gros, sur les 6 ans, ou quand je parle là d'une mairie, sur les 6 ans de mandat, ces gens-là sont élus que pour savoir ce que les gens veulent mettre en place.
Un mode de prise de décision qui permette une vraie démocratie locale.
Déjà, il ne faut pas qu'il y ait de leader. Voilà. Et puis, essayer de fédérer surtout. Il faut que tout le monde puisse... s'exprimer et c'est quelque chose qui prend du temps. Ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 15 jours. C'est quelque chose qui prend du temps et voilà.
Mais je crois au consensus. Le consensus, ça veut pas dire que tout le monde est d'accord. Ça veut juste dire que certains reconnaissent que les priorités des autres sont peut-être plus importantes que les miennes à ce moment-là.
Enfin, dans les milieux libertaires, on a l'habitude de fonctionner au consensus, c'est-à-dire que un sujet qui va être clivant, comme on dit, qui va poser problème, etc., il va être discuté par les différentes personnes qui vont s'écouter, etc., jusqu'à essayer de trouver un point commun. Si c'est pas possible, il y aura forcément des groupes qui peuvent s'extraire, hein, s'ils sont vraiment pas d'accord, et il n'y a pas de dictature d'une majorité, quoi.
Moi, toujours, c'est le débat avec la recherche de consensus, donc faut le mettre en place, et ça après, bon, c'est technique, comment est-ce que tu organises un débat avec une recherche de consensus? Ça, c'est essentiel d'écrire un endroit. Tu peux mettre plusieurs manières de débattre. Et donc, tu mets tous ces modes-là, t'en fais 4-5, et au début d'un débat, tu peux faire un truc... Le seul truc où je veux dire on est pour le vote, un vote à manœuvrer rapidement, pour ce débat, quelle modalité de débat vous voulez avoir. Et à la fin, s'il n'y a pas de consensus, tu te donnes un délai, et tu fais ça. Et par contre, faut que ça soit écrit. Faut que ça soit clair, il faut qu'il y ait une culture du débat qui a été, je pense, largement perdue, qui revienne. Et pour ça, ça demande de remettre quelques règles. Et ça, je pense qu'il y a c'est un des gros enjeux, parce que personne n'a envie de se ramener dans un
dans un débat, genre on t'invite au marché à venir à débattre d'un machin, en fait tu peux pas prendre la parole parce que c'est genre c'est une personne qui est sur le micro qui dispatche et qui va répondre à tout le monde. Mais qui a envie de ça en fait? Plus personne n'a envie de ça.
RLP, la bonne question.
Donc retour sur RLP, la bonne question. Est-ce que vous avez un petit commentaire sur les interviews?
Chapeau sur la qualité.
Ouais.
Ouais, c'est super d'avoir la parole comme ça en prise directe avec la réalité du terrain. Félicitations pour les interviewés et les intervieweurs.
D'accord.
Les diversités d'opinions, la capacité aussi de sortir des boîtes dans lesquelles on s'enferme les uns les autres. Donc oui, c'est intéressant et utile d'avoir ce type de regard.
Alors après, il faut bien entendre, c'est des gens en fait qui sont bien dans la société. Il y a un chômeur, mais il est bien engagé dans la société. Il a des vraies réflexions. Il y a une partie de la population qu'on n'a pas captée dans l'interview, notamment la partie de la population qui répond « je ne sais pas ». Parce que bon nombre de gens dans la population, quand on leur pose juste la question de « c'est quoi la démocratie locale ?», ben, « je ne sais pas ». Bon, ceux-là, on ne peut pas trop les capter parce qu'en réalité, comme ils ne savent pas, ils ne nous donnent pas de substance en fait, pour mettre dans l'interview, tout simplement. Donc on va commencer les interviews, les quatre questions avec nos invités. Donc c'est les quatre mêmes questions. On va commencer par toi, Nathalie. Première question, c'est donne-nous une définition de la démocratie locale.
Alors si j'étais dans un monde idéal, je dirais que la démocratie locale, c'est la possibilité de donner la parole aux citoyens, à l'habitant qui vit dans une communauté, une municipalité, un département, une région, une nation. Dans un monde idéal, nous aimerions tous avoir le plus souvent possible la parole pour dire ce que nous pensons. Je pense en particulier à ce que fait la Suisse avec des référendums réguliers, locaux ou moins locaux, mais en tout cas une possibilité de prendre la parole régulièrement. Nous sommes en France, donc cet idéal, nous en sommes loin. Alors maintenant que j'ai parlé de l'idéal, il y a, on va parler de la réalité, c'est-à-dire ce que les institutions nous permettent de faire. Ça a été le cas de l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a été votée en 2015 ou 2014. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une décision et après, la décentralisation, ça... Mais débrouillez-vous avec les conséquences. À vous de voter la structure et les conséquences. Donc est-ce que c'est une réelle démocratie locale, ça? Voilà. Donc je ne vais pas vous donner une définition structurée, mais juste pour moi, les possibilités et puis la réalité de ces deux approches, structurées ou ouvertes à la possibilité de créer notre démocratie.
Alors, avant qu'on fasse les commentaires alentour, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'a dit Nathalie?
Juste, oui, une petite... c'est un commentaire, c'est pas une opinion. C'est... tu parlais donc de référendum. Et en fait, le problème, c'est... On a toujours entendu les historiens ou nos politiques dire que, de toute façon, le propre des Français, c'est de pas répondre à la question du référendum. Voilà, c'était juste une petite remarque comme ça.
Le Gaulien qui dort en toi.
Non, non, il dort pas. Non, je plaisante.
Pardon, Vincent.
Par essence, vous avez choisi le thème démocratie locale. Donc, ouais. Cela veut dire qu'il existe donc une autre forme de démocratie, a priori. Donc, nationale et voire européenne. La démocratie locale, juridiquement, elle n'est pas pensée dans le texte de la Ve République, en 1958. On est dans une mode de démocratie purement représentative et élective. La démocratie, c'est pas encore une fois un week-end le temps des élections électorales. Il faut créer les conditions favorables, et il existe des outils, mais il manque surtout une volonté des élus de partager enfin ce pouvoir délégué par le peuple. Ils sont mandatés par le peuple. Peut-être qu'il est temps d'aller vers une démocratie beaucoup plus directe. En tout cas, sur les sujets locaux, ça me paraît indispensable.
Avec des mandats impératifs, alors.
Exactement.
On se rapproche de nos amis anarchistes.
Oui, oui. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a des références historiques dans l'éducation populaire ou chez les anarchistes qui ont déjà mis en avant des fonctionnements de démocratie locale. Quand on écoute les gens de l'éducation populaire, les mécanismes de prise de décision en direct, etc., sont très développés.
Vincent, est-ce que tu peux nous donner ta définition, même si tu as commencé un peu à rentrer dedans, ta définition de la démocratie locale ?
Non, mais une définition très simple. Ça a été dit tout à l'heure en introduction. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir. Donc, a priori, le pouvoir au peuple. Dans la réalité, qu'est la démocratie locale actuellement ? Une démocratie exclusivement élective, nous donnons mandat à une assemblée délibérante, en l'occurrence des assemblées, donc soit les conseils municipaux, le conseil départemental, le conseil régional, ça a été dit tout à l'heure. Ne pas oublier les 1300. Notre République, telle qu'elle est pensée, et son rapport aux citoyens, entre guillemets, c'est assez récent. Donc, on est, entre guillemets, sur ce chemin-là, encore dans les prémices de ce que pourrait être, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur la réalité de la décentralisation. Voilà. Il y a tout un principe de péréquation républicain qu'on a totalement oublié. C'est-à-dire que des régions riches, tant mieux pour elles, ont la capacité d'investir et de faire des choses intéressantes. Et puis des régions moins riches, voilà. Avant, il y avait une nation une et indivisible. On parlait de la République française. Malheureusement, si vous baladez un peu sur le territoire français, c'est valable pour les communes également, hein, ce qui pose une très grande question d'inégalité. Pourquoi un citoyen serait pénalisé simplement du fait d'habiter dans une commune rurale ou alors avec un potentiel fiscal pas très élevé ? Pourquoi serait-il pénalisé plutôt que quelqu'un qui habite sur le bassin d'Arcachon et qui va pouvoir bénéficier d'équipements municipaux de qualité, de financement aux associations plus importantes ? En qualité de quoi ? Simplement parce qu'il n'est pas bien né sur un territoire. Ça n'a pas de sens. C'est une question de culture. Il y a tout un travail à faire, à la fois auprès des élus et auprès des administrés. Il existe des commissions extra-municipales. Chaque maire dans sa commune a le droit d'ouvrir les instances de décision, en plus des commissions municipales, de l'ouvrir à qui le souhaite. Encore une fois, c'est des choix et des volontés politiques pour éclairer et dire à la population, vous n'êtes pas, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas une séparation. C'est pas parce que vous avez voté une fois pour nous que, un, on n'a pas de compte à vous rendre. C'est pour ça que nous, à la France Insoumise, on milite également pour le mandat impératif et la révocabilité des élus. Comment imaginer encore, de nos jours, en 2023, qu'on peut être élu sur un programme et ne pas le mettre en place ?
D'accord. Est-ce qu'on a des questions ou un commentaire sur ce que vient de dire Vincent ?
Moi, j'en ai une petite. Tu parles des communes, Vincent, mais de plus en plus, les intercos ont un rôle prépondérant. Ça a été accéléré ces derniers temps par différents textes réglementaires et l'obligation qui est faite aux intercos de se lier entre elles pour faire des espèces de mégapoles. Et ça éloigne encore plus le citoyen de l'élu. Et le petit maire, même s'il est de bonne volonté, va peut-être voir des choses se produire sur sa commune, ce que je disais un petit peu dans mon histoire, des choses qu'il n'a pas choisies, qu'on lui impose. Il lui est difficile aussi de lui reprocher. D'accord. C'était juste une remarque.
D'accord. On va passer à la deuxième question. S'il y avait plein de trucs à dire.
RLP.
Mais avant, on va se faire une petite pause musicale avec le groupe Les Notaires dans ma démocratie.
La bonne question.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir Henri Desbal. Nous, on se présente, on s'appelle Les Notaires. Les Notaires avec un gros R. Et la chanson suivante s'appelle Dans ma démocratie. Dans ma démocratie, où je vis ici-bas, c'est le pire, mais c'est le meilleur, comme disait l'autre rat. Hey, réalisme oblige, un jour tu comprendras ces discours démocrates, réfléchis, ferme et droit. Oh la belle démocratie, où tu peux faire ton choix de crever comme une merde, ou de marcher au pas, de gueuler à ton gré, ou de taire ton émoi. Tant que tu ne fais rien trembler, libre à toi, libre à toi. Dans ta boîte à béton, dans ta cage à ciment, tu peux toujours fouiller, scruter le firmament, et guetter comme un con, pavé comme un gros glin, tes petites illusions de petit inconscient. Pourtant dans ce pays d'or et de joie, personne nous empêche de danser la polka, de s'astiquer la bite en se disant tout bas, pourvu que ça continue, que ça continue, que ça continue, que ça continue comme ça.
démocratie, moi je tire chapeau bas à ces beaux cravateux qui ont tout compris déjà, à leurs faux cœurs, leurs faux yeux, leurs faux mots, leurs faux pas, à ces hommes d'assurance et rois, pleins d'éloquence. Dans ma démocratie, il y en a pourtant qui lèchent des idées basses comme ça, et des monstres aussi rêches. Il y en a qui gardent, soi-disant, l'heure de piller sur terre. Il faut bien quelques victimes pour faire tourner l'affaire. Et l'affaire tourne bien et roule à 100 à l'heure. Pour les vivants perdus, faudra sécher vos pleurs. Pour nos cerveaux vaincus, retrouver l'équilibre et surtout rassurer la foule en mal de vivre. Pourtant dans ce pays d'or et de joie, personne nous empêche de chanter la java, de s'astiquer la vie en se disant tout bas, pourvu que ça continue, que ça continue, que ça continue comme ça.
De retour sur RLP. Deuxième question. Alors, la deuxième question, c'était une action. C'est toi qui vas répondre. Ça te va, Vincent?
Ah oui.
C'est toi qui réponds. Est-ce que toi, tu peux nous mettre en avant une action de démocratie locale?
Alors que moi, je n'ai pas mis en œuvre parce que j'ai pas été élu, malheureusement. Mais il existe de nombreuses communes. Je pense à Grande-Synthe, qui a mis depuis des années, qui a tenté de créer les conditions les plus favorables pour approcher administrés et élus. Et je vous parlais tout à l'heure de ces fameux ambassadeurs de la citoyenneté. Voilà, le nom est peut-être un peu pompeux, mais au moins il a le mérite de vouloir rendre la souveraineté du peuple aux électeurs avec un premier niveau, il ne faut jamais l'oublier, qui est le niveau d'information. Donc moi je suis favorable à ce qu'à chaque fois, lorsqu'il y a une délibération dans un conseil municipal, ce qui n'est pas le cas, qu'il y ait à la fois un droit à l'information, qui est dans le Code général des collectivités territoriales, qu'il y ait une consultation obligatoire, et ensuite une co-décision. L'idée n'est pas d'enlever totalement les pouvoirs et les responsabilités des élus via leur mandat, mais d'arriver à des copartages et des co-constructions. Au même titre que la France insoumise, on milite pour le partage des richesses, on milite également pour le partage du pouvoir. Voilà.
Un petit commentaire sur ce que Vincent vient de dire?
Alors, là aussi, quand on écoute Vincent, j'avoue que c'est idéal. Moi, je dirais, j'ai envie de signer quand j'écoute. Et ce qui m'intéresse derrière, c'est la réalité de ce qu'il en ressort. Déjà, le temps investi, parce que c'est toujours la même chose. Qui vient, qui parle, qui prend le leadership. Et on se retrouve de toute façon, là aussi, comme dans une élection, avec des gens qui se dégagent. Et c'est vraiment, comment dire, candide hein, comme réflexion. Ce n'est pas un reproche, c'est une réflexion. Est-ce qu'il y a du recul sur ce genre d'approche et est-ce que c'est satisfaisant? Donc là, moi, je n'ai pas d'expérience de ce type-là, donc je ne peux pas en parler. Mais je serais effectivement très curieuse de savoir comment ça se passe.
Et sur l'idée de que ton mandat, en fait, soit quelque chose d'accessoire et qu'en fait, ce soit plutôt la population qui tranche. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette idée?
Alors, oui et non. Alors, oui, parce qu'effectivement, au cours du mandat, il y a un moment, il y a des décisions qui doivent être prises. Et lors de l'élection, elles n'étaient pas forcément en ligne de mire. Donc, l'actualité nous impose un moment, peut-être, de retourner vers les électeurs. Et puis non, parce que lorsqu'il y a un conseil municipal ou au-delà, lorsque les gens sont élus, c'est qu'il y a une délégation de pouvoir. Donc il y a un moment, il faut quand même qu'on prenne les responsabilités de ce qui nous a été confié. Donc c'est cet équilibre-là, pour moi, qui n'est pas encore, je l'avoue, aussi abouti peut-être qu'à la France insoumise, mais sur lequel je m'interroge, parce que on le voit bien, il y a des gens qui s'intéressent à la politique, on a beau communiquer, ouvrir. Nous, on fait des réunions publiques régulièrement hein, dans notre petite commune. C'est toujours les mêmes qui viennent.
Ouais.
Et on n'arrive pas à, je dirais, justement, à donner un petit peu plus de dynamique. Et c'est aussi ça qui est en jeu. C'est pas les gens, se désintéressent de la politique, ne viennent plus voter. Ils se désintéressent, point barre. Donc, que peut-on mettre en place pour leur dire, mais là, vous pouvez donner votre avis. Donc venez discuter avec nous.
C'est une des questions.
Et là, on retourne dans l'éducation. Ça, c'est vrai.
Oui, j'ai vu ta main se lever, oui. Alors, on a Sandrine qui nous a rejoint, qui fait partie du groupe de AFAC. Oui.
Oui, alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que madame vient de dire. Je crois que pour fédérer les gens, il faudrait qu'ils soient peut-être... faudrait que les gens puissent croire de plus en plus à la politique, en fait. Parce que d'abord, les gens y croient de moins en moins, et que quand la politique leur donne la parole, ça étonne, aujourd'hui. Ça étonne qu'on puisse nous dire « Ah ben, venez donner votre avis. » En vrai, ça fait des années qu'on ne nous demande pas. Donc aujourd'hui, pour fédérer les gens... je pense qu'il faut donner un grand coup de poing sur la table. Il faudrait quelque chose de percutant et qu'on rapproche la politique des citoyens et que ça soit pas juste un microcosme où on a l'impression que voter ça sert à rien. À un moment donné, faudrait que nos politiques soient plus crédibles, peut-être, pour qu'on puisse croire au fait qu'on va nous donner la parole. Voilà.
Du coup, toi, est-ce que tu as une action de démocratie locale? Parce que tu n'as pas répondu à cette question.
Pour l'instant, non, je ne peux pas en témoigner. D'accord. J'étais intéressée par à ce que disait Vincent, ses expériences. Mais finalement, qu'est-ce que ça donne?
Troisième question, qui est-ce que vous avez, vous, un outil de démocratie locale auquel vous avez pensé, qui dort à l'intérieur de vous, et dont vous savez que ça pourrait fonctionner, mais qui n'est jamais sorti, ou qui a peut-être été essayé, mais squeezé à un moment de l'histoire, parce qu'il y avait d'autres enjeux à ce moment-là. Est-ce que vous avez des suggestions pour le futur?
Alors, c'est vrai que moi, qui ai vécu quelques années en Suisse, je suis très admirative de cette façon d'organiser la démocratie locale. Je rêve de quelque chose d'équivalent qui se mette en place, et je pense que... Enfin, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas en France. Il y a certainement des écueils ou des barrières que je ne vois pas. C'est fort possible. Mais pour moi, cet idéal, il est là. Les outils que j'aimerais mettre en place, faire des réunions d'information auprès de la population concernée, de mettre sur la table les enjeux, les alternatives, et d'entendre les gens. Parce que quand on prend des décisions, il y a forcément des arbitrages. Et c'est important que ces arbitrages, on puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Et tout ce qui se fait, par exemple, dans un conseil municipal, sur des choses importantes, je pense qu'il faut prendre le temps de le faire également avec la population.
Est-ce que vous avez des... Non ? Vincent, toi, est-ce que tu as un outil du futur ?
Alors, si tu me le permets, avant de parler du futur, à l'heure où on se parle, là, il existe à la disposition des élus, encore une fois, pour peu qu'ils en aient la volonté politique, beaucoup de choses peuvent déjà potentiellement être mises en œuvre au niveau de la démocratie locale. On peut mieux informer les citoyens, mieux les consulter, mieux les associer à la construction à la fois d'une pensée publique commune et aussi mieux les associer donc à une codécision politique. Il existe des outils législatifs à la disposition des citoyens et des élus pour peu qu'ils veuillent bien s'en saisir. Première loi, c'est une amélioration, on part de tellement loin, loi de 2002 qui instaure la création des conseils de quartier pour les communes, obligatoire pour plus de 80 000 habitants, mais rien n'empêche un maire, heureusement, de se saisir de ça et de dire « c'est un modèle plutôt intéressant ». Conseil consultatif, conseil de quartier, assemblée délibérante, et on peut même avoir un budget autonome. C'est-à-dire qu'un quartier peut avoir une enveloppe budgétaire pour décider d'amélioration, soit d'un équipement sportif, amélioration du cadre de vie ou des travaux de réfection de voirie. Le conseil municipal décide de déléguer à des représentants via avant une animation pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure, toujours le même leadership, cette capacité à prendre la parole en public, à animer une réunion, c'est pas simple. Et tu le disais, il existe en France nombre d'associations d'éducation populaire qui maîtrisent cette co-construction, l'intelligence collective, les outils du consensus, enfin, bref. Deuxième avancée majeure, la révision constitutionnelle de 2003 qui permet d'instaurer des outils amplifiant le mouvement d'une démocratie plus locale, un dialogue plus régulier avec les citoyens et avec les administrés. C'est l'introduction, quasiment jamais utilisée, du droit de pétition. Je pense que si on fait un sondage auprès de nos administrés, des collègues, citoyens, même entre copains, entre potes, je ne suis pas sûr qu'ils savent qu'ils ont la possibilité du droit de pétition et également le droit du référendum local. Jamais utilisé, hein, jamais. Pourtant, un outil législatif à la disposition. Et en 2004, la création des consultations locales. Nouvelle modalité d'association citoyenne qui impose l'organisation de consultations citoyennes auprès de chaque habitant dit impacté en amont de la prise de décision concernant des projets susceptibles d'avoir une conséquence sur l'environnement et le cadre de vie. Donc, encore une fois, je regrette, mais encore une fois, c'est tout le problème de l'acculturation. Les élus ne veulent pas s'en saisir, c'est pas dans leur culture, effectivement, c'est pas dans le schéma de pensée, c'est pas dans ce paradigme-là. Ils pensent que démocratie élective, représentative, ça suffit, on m'a donné mandat, point barre.
Bon, ta réponse, elle est là. Alors, Sandrine, tu avais levé la main ?
Alors oui, parce que, en fait, je viens d'apprendre tout ce que vous venez de dire, en fait, tout ce qui était possible de faire. Et du coup, je me dis, mais pourquoi on n'en entend pas parler ? Pourquoi on n'est pas vraiment informé ? En fait, moi, ce qui m'agace un peu, c'est qu'il y ait une élite qui prenne des décisions. Nous, on les subit plus qu'on n'y prend part. Alors que c'est nous, qui, en bas de cette pyramide, justement, qui subissons ce genre de trucs et qui ne sont pas souvent adaptés à la vie. Je parle en ce moment d'inflation, par exemple, où ce mot, c'est quotidien, c'est machin. On a l'impression de la subir parce qu'on prend des décisions en haut lieu, on ne nous consulte pas, on ne nous demande pas si nous, on a des idées pour faire changer tout ça. Parce que, comme vous disiez, il y a des gens qui sont pas vraiment à même de prendre la parole ou de tout ça. Moi, le droit de pétition, je ne connaissais pas. Voilà, alors est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'informer le peuple, entre guillemets, les citoyens comme moi, qui sont simples citoyens, et qu'on peut faire des choses, et qu'il y a des choses à faire, et que... parce que les élus nous ferment leurs portes, mis à part si on a vraiment besoin d'eux pour un truc bien ciblé. Voilà, on peut peut-être les atteindre, et encore... voilà, bref.
Ok,
petite pause musicale avec le groupe L'Accent. Titre démocratie.
RLP.
Bien avant Jésus, esclavage pour des inégalités sociales. Athènes en taille, Athènes se taille. Une nouvelle classe urbaine émerge et conteste que les pauvres conservent, que les nobles conservent. La démocratie jaille. Le pouvoir au peuple ne lui appartient plus. En France, il est parti dans les partis, bien réparti, véhicule l'empathie. On joue dans leur partie et la terre en pâtit. On est devenu le problème. En fait, on est la solution. Pendant qu'on les juge, ils nous perdent. Ne font que s'adapter à l'opinion.
La poudre aux yeux, un véritable spectacle de magie. Ils ont l'idée, nous avançons. Le jeu se nomme démocratie.
On retire notre socle. Oui, on retire notre socle.
Même si le cube est jeté.
Si on retire notre socle.
Ne pas s'éloigner des autres, renverse les règles de l'échec.
La terre que j'ai foulée enfant est celle que je défendrai tout le temps. Malgré ses défauts, je la porte dans le sang. Je parle de la France au sens large. Un pays en couleur chargé d'histoire. Ne laissons pas les politiques à ramener leurs idées noires. Et quand elles me déçoivent, je me barre en voyage voir d'autres territoires et paysages. Là où le partage règne, on ne se pose plus de questions. Les gens quittent leur terre pour des réponses. J'ai eu affaire à des gars sympas, fuyant une dictature d'un autre âge. La démocratie, ils ne la connaissent pas. Les lois sont dictées par les rois. Ils passent des lois parfois dans la vue. D'un seul point de vue, on ne peut pas tout voir. Démocratie, même quand les manifs n'exercent plus aucun contre-pouvoir. Bosser, atteindre les sommets, je médite pour ceux qui m'ont sauvé. Le vaisseau français est offensé. La liberté d'expression poursuit Dieu d'eau. Liberté, égalité, fraternité.
Comment ça se fait que certains se sentent pas intégrés? Il faut de tout, un peu de chacun. Même les chacals se trouvent des catins. On est plus victime quand on passe à l'action. La clé se trouve dans le pardon.
Puisqu'on est né dans un pays en démocratie. Puisqu'on est né.
Du coup, dernière question qui, je pense, moi, est vraiment une question capitale, à savoir les prises de décision. Quand on fait de l'acte en groupe, en collectif, il faut avant tout se poser la question de la prise de décision, du mode de prise de décision. Certains vont le faire avec une élite parce qu'ils sont formés à ça, etc. D'autres vont aller un peu plus loin, vont penser que c'est le besoin qui doit permettre de prendre la décision et le mettre en lien. Je vous dis ça parce que notamment Jacques et Cathy de la mouvance libertaire, c'est ce qu'ils exposent. Je renvoie tout le monde au podcast qu'on met en place en parallèle de l'émission. Donc voilà, vous, quel est le mode de prise de décision que vous favorisez pour avoir une bonne démocratie locale? Oui.
Alors, moi, en tant que simple citoyenne, juste deux mots. Je pense qu'on devrait demander plus aux gens ce qu'ils veulent, eux. Nous, on la vie, quoi. On la survole pas. Donc, il faut vraiment qu'on demande aux gens qui vivent au jour le jour et au quotidien dans une vie dite normale ce qu'ils veulent bien pour leur futur, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse, moi.
Bon. Non, mais c'est très bien. Je le mettrai après. Tu seras la troisième invitée. Vincent ?
À la France Insoumise, on demande un mandat unique. Libérons et faisons enfin souffler un vent démocratique sur nos institutions et sur nos élus. Mais pour moi, le préambule de tout ça, c'est l'avènement de cette 6e République. Je pense que je vous aurais assez fait suer comme ça.
Oui. Nathalie,
alors,
un mode de prise de décision.
Pour moi, il y a effectivement le temps de la discussion et c'est important qu'il existe. Et tout mettre en place pour que ça part plus du bas. Alors, je ne sais pas vers le haut, mais en tout cas, au moins vers du bas à certains niveaux. Mais derrière, c'est faire en sorte que ça avance.
Ok. On a terminé la partie interview des invités. Je vous propose qu'on écoute donc une interview de Stéphane avec Jacques Ouzou, qui vont nous parler des différentes strates administratives à la française. Et j'en profite pour vous donner l'information qu'on a deux podcasts en parallèle de l'émission avec Jacques et Cathy des Mouvances Libertaires, et l'interview totale de Jacques Ouzou quand on est allé l'interroger à son bureau du Grand Périgueux. Donc deux interviews complètes qui font environ une demi-heure.
RLP.
Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans vos locaux, dans votre bureau. Alors nous allons commencer ce petite interview par quelques questions. La première concerne le millefeuille administratif français. Alors, le millefeuille administratif français ne rend-il pas l'action publique illisible, irrationnelle et coûteuse?
Alors, à cette question, je réponds oui. L'Interco a comme effet, au bout de 20 ans, d'avoir éloigné les citoyens des lieux de décision. Les grandes régions viennent de faire le constat que c'est un échec d'avoir fait des régions. L'Aquitaine, c'est l'Autriche. C'est 6,5 millions d'habitants. Non, mais c'est l'Autriche en surface. Donc, il y a un éloignement énorme des lieux de décision. Et l'intercommunalité, on le voit dans l'agglomération de Périgueux, comme dans plein, mais il n'y a pas qu'ici. Vous allez à Agen, vous allez à La Rochelle, vous allez à Angoulême, les intercos sont en crise. Pourquoi? Parce que les gens ont envie de donner leur point de vue. L'endroit, tous les sondages montrent que l'endroit où ils se sentent le plus à l'aise pour faire part de leur sujet, c'est la commune, et les communes sont progressivement vidées de leur pouvoir. Donc il y a une contradiction démocratique entre ces réformes qui s'ajoutent aux unes et aux autres.
Deuxième question, pourquoi le choix par le pouvoir politique des intercommunalités ?
Les intercommunalités, ça part d'un principe très technocratique qui dit Il y a autant de communes en France que dans toute l'Europe, et on en tire la conclusion qu'il faut réduire le nombre de communes. Tous les sondages montrent quel est l'élu qui est le plus estimé par les habitants, qui est l'élu qui a le plus de proximité avec ses habitants, c'est le maire.
Alors, pour rebondir dessus, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que l'ajout d'une strate supplémentaire, l'intercommunalité, au niveau local, risque d'augmenter la distance, voire la défiance entre administrés et élus? Je crois que vous avez déjà en partie répondu.
Oui, mais s'il n'y a pas un travail du maire vers les administrés de ce qui se décide à l'interco, il y a une césure qui intervient. Pourquoi? Parce que l'éloignement des lieux de décision. Il n'y a pas de grandes communes et de petites communes.
Alors, vous introduisez ma question suivante, ce qui est parfait.
Ah bon?
N'existe-t-il pas un risque d'hégémonie de la commune la plus importante sur les autres composantes de l'intercommunalité en dépit du mode de représentation de son assemblée?
Le risque, il existe. L'envie existe. L'envie que les villes-centres... Moi, je ne sais pas comment ça va évoluer. Vous voyez aujourd'hui le phénomène gilet jaune. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, les gens aspirent à être pris en considération. Tout élu qui se respecte aujourd'hui parle de démocratie participative, etc. Vous avez un maire à Périgueux qui met un panneau et une urne, décide-moi ta place. Est-ce que les enfants de l'école ont la capacité de savoir si on peut planter ce type d'arbre-là? Non, mais voilà, donc l'agglo, mais ici, c'est pas partout pareil. Ici, on a créé des services pour que les maires aient des points de support pour pouvoir avancer. C'est la démarche qu'on fait ici, mutualisation des services. Si, à l'inverse, vous êtes avec un capot comme à Angoulême ou à Cognac, où le gars il décide tout pour lui et que les autres n'ont plus qu'à lever la main de temps en temps, ben, ça crée des crises.
C'est ma question suivante. N'existe-t-il pas un risque à terme de voir les communes auxquelles les citoyens sont sincèrement attachés être vidées de leur substance par l'extension des domaines de compétences alloués aux intercommunalités? Donc, la commune existera toujours, théoriquement, mais...
Il déposera une gerbe de fleurs le 11 novembre. Il fera un mariage par an, voilà. Bah, oui.
Un président de la 4e République, voilà.
Bah, oui, c'est... Les inaugurations. Mais c'est ce qu'ils veulent.
Oui, oui.
C'est... ce qui sous-tend le projet.
Alors, pour conclure, sous forme de boutade, une dernière petite question. À quand un grand Périgueux avec les 503 communes du département?
Et quand les énarques auront gagné?
Est-ce qu'ils ne veulent pas remplacer les départements par des intercommunalités?
Mais bien sûr que si. Voilà. C'est l'objectif. Le problème, c'est qu'on ne mesure pas trop ce que représente le département. De même, si ça se fait en fonction de la richesse du territoire, même sur la Dordogne, on peut, selon qu'on habite dans un endroit un peu plus riche,
bénéficier de...
le département a un effet péréquateur. C'est le RSA, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est l'aide médicale, les aides ménagères. Mais le prix est le même, le département est encore... une collectivité qui assure une péréquation. La démocratie, c'est un bien qu'il faut choyer au quotidien.
Monsieur le Président, je vous remercie pour vos réponses, la sincérité de vos réponses, pour votre accueil et le temps que vous nous avez consacré.
RLP.
De retour sur RLP dans La Bonne Question. Donc, on a écouté Jacques Ozou, le président du Grand Périgueux. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce que M. Ozou a expliqué?
Je ne changerai pas une virgule. Je partage point par point son sentiment. Les communes sont vidées de leur sens. Ce sont des décisions technocratiques. Et à terme, se posera la question, bien qu'elle ait selon moi toute son utilité, mais de la disparition programmée, je dis bien programmée, des communes, au profit de grosses entités. Donc je ne peux que souscrire à 100% aux propos qui viennent d'être tenus.
Nathalie ?
Mais écoutez, je ne vais pas contredire mon voisin. Beaucoup de bon sens, beaucoup de lucidité. Mais s'il y a autant de pression pour réduire les communes, n'est-ce pas aussi parce que il faudrait que nous soyons plus exigeants avec nos maires. On voit des maires qui sont, pour la plupart, élus mandat après mandat, et qui deviennent des petits autocrates de leur commune. Mais je dirais, au-delà des institutions, au-delà des constructions théoriques, il y a aussi des comportements, je trouve, à revoir.
Tu es d'accord avec Vincent pour retoucher un peu le statut du maire, donc.
Ah, mais totalement, mais de façon à ce que...
De l'élu, de manière générale,
que nous ayons des outils d'exigence. Là je vous rejoins complètement.
D'accord. Merci à vous de tous ces commentaires, c'était fort intéressant. On va terminer l'émission avec une petite rubrique sur « Parce que nous aimons les livres », un ou deux bouquins, ou si vous avez des propositions de livres, Stéphane.
Je vais commencer par un roman, « Clochemerle » de Gabriel Chevalier, 1934, ou « Bataille autour de Pissotière », si on veut. Ça me rappelle du souvenir du Beaujolais. J'avais un client là-bas, c'était Vaux en Beaujolais, justement. C'était très bien. Deuxième, alors ça, c'est moins drôle, moins comique, mais c'est un très bon outil de travail. « Les collectivités territoriales et la décentralisation à la documentation française », 12e édition, une œuvre collective, téléchargement aux alentours de 10 euros, la version papier un peu plus chère. C'est vraiment très sympathique. Et
Moins Beaujolais, par contre.
Ah oui, moins Beaujolais. Il faut être âgé pour l'aborder, oui. Et le troisième, alors j'ai pas toutes les références, mais les gens retrouveront facilement, c'est Michel Onfray, « Décoloniser les provinces ». Voilà.
Nathalie, est-ce que tu as une
alors
une
moi, suggestion? Alors, je suis un petit peu embêtée parce que j'avais pensé justement au livre de Michel Onfray. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toute une culture à construire là-dessus. Donc, votre liste de livres va particulièrement m'intéresser. Comme je le disais, je m'intéresse à la politique depuis à peu près 2 ans maintenant. Avec beaucoup de choses que j'essaye à ma petite mesure de construire et de réfléchir, et je n'aurai qu'une recommandation à faire effectivement aux auditeurs, c'est quelles que soient nos opinions politiques, lisons. Voilà.
Vincent.
Alors moi, il y a quelque temps, j'aurais pu abonder dans le sens de Michel Onfray, mais son virage extrême droite m'empêche. Donc, pardonnez-moi, je ne soutiendrai pas la lecture de Michel Onfray. Et pour remplacer, je vous propose, je vous écris du Front de la Somme, bouquin écrit par François Ruffin, une sorte un peu de journal au quotidien des luttes, toutes ces femmes et ces hommes qui étaient en première ligne sur la Covid. À quel point ils sont primordiaux au quotidien pour la nation. Donc c'est un super bouquin qui donne du baume au cœur pour continuer la lutte et le mouvement social.
Moi j'en donne une, c'est toutes les réflexions de Pierre Rabhi dans un bouquin qui s'appelle Les Colibris, qui pour moi représente autant des réflexions que des solutions, que... c'est l'heure des au revoir. Alors, qui veut commencer à nous dire au revoir? Est-ce que vous avez un dernier mot à dire avec un petit au revoir?
Longue vie à l'émission.
Oui. Merci. Excellente émission. Je suis ravie d'avoir été sollicitée et d'avoir répondu. Et je répondrai présente de nouveau s'il y a d'autres thèmes que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez débattre.
Et je tiens à remercier chaque personne qui a participé à cette émission, donc nos deux invités. Je tiens à vous remercier parce que ça m'a ouvert beaucoup, 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 beaucoup sur la démocratie locale. Et je sais que maintenant, je pourrais commencer à en parler autour de moi. J'aurai un sujet beaucoup plus concret. Pardon. Et je tiens à remercier aussi du coup, tout le travail qui a été fourni autour de ça par la radio et par tous ces intervenants. Pardon.
Sandrine.
Moi, je vous remercie de m'avoir permis d'être là, parce que ce n'était pas prévu. Voilà, je ne voulais pas vous embêter, mais sur ce, vous avez fait une très bonne émission. Donc, à la prochaine, ma foi.
Ouais, et puis, pour tout vous dire, c'est que les locaux sont petits. Hein, sinon, vous auriez été 200 dans la salle. Merci à vous d'avoir été présents. À une prochaine et au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Lui, c'est lui, et moi, c'est moi. Oui. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire.
Le bruit et l'odeur. Le
ping-pong politique.
Il n'a pas de nom.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Pas de visage.
pas de parti.
La gauche caviar.
Et pourtant,
le sexe,
il gouverne.
Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme.
Grâce au secours ! Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Ministre, ça agit.
Je vous demande de vous arrêter.
Un homme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Oui, bien sûr.
Une femme qui fait une bêtise, c'est une gourde.
Conquiert la bravitude.
Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
La bonne question.